Alors, quand on prépare un message, il y a quelquefois de multiples idées, multiples thèmes qui peuvent venir dans notre cœur. Et le Seigneur est vraiment ce potier qui prend le vase d'argile que nous sommes pour le travailler. J'ai vécu une semaine assez mouvementée, travaillée, mais gloire à Dieu, il se moque de nos incapacités. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui va pouvoir peut-être vous déranger, vous allez remuer sur votre chaise, mais c'est celui que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est une vraie séparation. Est-ce que tu peux mettre où j'y vais? Alors, on ne voit pas très bien. Est-ce que vous avez écouté les informations au mois d'avril? Mais c'est repassé cette année, enfin, il y a cette semaine, je veux dire. C'est un effondrement qui a eu lieu dans les Alpes-Maritimes, sur une montagne, et donc qui a complètement détruit la route. Alors, donc la route, elle est là, et puis elle se poursuit là. Là, il n'y a plus de route, il n'y a plus de chemin. Je n'ai qu'une image aujourd'hui, j'ai celle-là, mais il y en a d'autres qui seront imagées. Mais c'est pour vous dire que l'action du Seigneur dans nos vies, c'est un effondrement. Et maintenant, si vous voulez passer de l'autre côté, il faudra une volonté certaine, parce que le Seigneur a fait quelque chose dans vos vies. En tout cas, je l'espère, ou qu'il le fasse très prochainement. Et la vraie séparation, bien sûr, c'est la séparation du péché, la séparation du monde. Et nous sommes quelquefois, je le suis pour moi-même, je ne prêche pas qu'à vous, je me prêche aussi à moi-même. Nous sommes quelquefois déçus de notre propre vie de chrétien, de dire, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette tiédeur? Et quelquefois des compromis qui sont vraiment très bizarres. Et vous savez que sérieusement, quand on lit la parole, on peut être repris. Et quand le Seigneur nous dit « Je vomirai les tièdes », ça veut dire que nous ne serons pas au paradis, dans cet état. Et donc, bien sûr, si il y a la tiédeur, il y a le refroidissement aussi. Le refroidissement, la température de notre corps commence à chuter, nous ne sommes pas loin de la mort. Et bien souvent, je me suis dit, je l'ai dit à certains d'entre vous, mais si le monde connaissait Jésus, tout le monde viendrait à lui. C'est impossible de connaître Jésus et de parvenir à lui. C'est complètement impossible. Mais le Seigneur m'a repris en me disant, mais si mes enfants me connaissaient, l'Église en serait changée. Et bien sûr, c'est un constat. Mais le Seigneur ne nous amène pas à des constats pour des constats. Il veut nous changer. Et vous prenez le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, de toute ta force. Seigneur, qu'est-ce que je fais de mes forces, de mes pensées? Et je terminais la semaine dernière, je ne sais plus, le livre de l'Ecclésiaste, qu'un peu le testament aussi de Salomon, qui disait « Écoutons la conclusion de tout le discours. » Donc c'est le dernier verset de l'Ecclésiaste. « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'homme. » Et en fait, ce qu'on a oublié bien souvent, c'est qu'il y a des commandements dans la parole de Dieu. Et combien de fois j'ai entendu, mais j'ai pu le croire aussi, mais c'est plus pour nous ça. Les commandements, les 10 commandements, mais c'est plus pour nous ça. Le Seigneur Jésus nous a affranchis. Oui, amen. Et alors, si c'est dans le désordre, c'est pas grave, le Seigneur va nous... Alors, je ne sais plus si c'est ça. Non plus. Bon, Givorg, tu peux passer la seconde diapo, s'il te plaît ? Voilà. Alors, c'est difficile à lire peut-être parce que c'est petit, mais je vais vous le lire, vous prenez Matthieu 5. Et là, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas un petit homme devant vous. Et je l'ai pris dans parole vivante, de façon à ce que nos oreilles entendent. Jésus parle ainsi. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour supprimer ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour supprimer, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tant que le ciel, tant que ciel et terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé. Tout le plan de Dieu se réalisera. Par conséquent, si quelqu'un s'affranchit d'un seul de ses commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ses commandements et qui apprendra aux autres à faire de même sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Vous voulez être juste aux yeux de Dieu ? Je vous préviens que si vous n'obéissez pas, si vous n'obéissez pas à la loi, mieux que les interprètes de la loi et les pharisiens, vous ne risquez pas d'entrer dans le royaume des cieux. Vous savez bien quels commandements ont été transmis à nos ancêtres. Tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal et sera condamné. Eh bien, moi, je vous le déclare, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « espèce d'imbécile » mérite de passer devant la Cour suprême, et celui qui traite d'insensé est bon pour l'enfer. Alors, par rapport à nos ambiguïtés, on va dire, d'hommes, souvent, on se place un petit peu au centre et puis Dieu est à la périphérie. Mais Jésus est le centre. Dieu est le centre de toute la création. Nous n'en sommes pas le centre. C'est la parole de Dieu qui détermine tout. C'est la loi de Dieu qui est seul maître. Et mes amis, ça fait 25 ans que, gloire à Dieu, il a touché ma vie. Mais j'ai eu une grâce particulière, mais je n'ai pas toujours entendu que nous devions respecter les 10 commandements. J'ai entendu, mais Dieu est bon, mais Dieu t'aime. Moi, j'ai dit à des personnes, Dieu t'aime. Ah, ils m'ont dit, ça me fait une belle jambe. Ce n'est pas des blagues, hein. Ouais. D'autres personnes même. Et en fait, dans cette évangélisation erronée, parce qu'elle est erronée, on présente un remède sans savoir si la personne est malade. On sait effectivement qu'elle est pécheur, mais elle n'en a pas conscience. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est un chercheur qui fait des recherches sur les médicaments concernant les maladies génétiques. Il peut venir me voir, par exemple, et me dire « Jean-Luc, j'ai le médicament qu'il te faut. Tu as une maladie grave, une maladie génétique, tu ne peux pas passer à côté, ta vie est en danger. » J'ai passé toute ma vie à chercher. J'ai donné ma vie pour ce médicament. J'ai tout donné. Prends ce médicament, il va te sauver la vie. J'ai dû dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? De quelle maladie tu me parles? On ne m'a jamais dit que j'étais malade. On ne m'a jamais dit que j'avais cette maladie. Comment tu dis? Je ne comprends rien. Et tu me dis que tu as le médicament et tu voudrais que je le prenne. Et alors, c'est quelquefois comme ça qu'on parle. Cette méditation qui a été chamboulée, je peux vous dire. Chaque jour, il y avait... Bon, passons. Mais gloire à Dieu. C'est merveilleux de sentir sa main quand on travaille comme ça. Mais il m'est revenu donc un texte qui, ça fait, je pense, 15 ans que je l'avais reçu. Je l'ai transmis à certains de mes frères, enfin à tous mes frères anciens, il y a quelques années aussi. Ça s'appelle « Le secret le mieux gardé de l'enfer ». Le secret le mieux gardé de l'enfer. Donc c'est M. Ray Comfort. Donc c'est pas le réconfort, mais c'est Ray Comfort. Et allez chercher sur Internet ce texte, traduit par David Nolan, qui est de Top Chrétien, si je me rappelle bien, et ou de Michel Dastier. Prenez ce texte, regardez. Nous sommes dans un temps où nous avons oublié comment présenter l'Évangile. Et plusieurs références sont citées, et bien sûr des hommes, des prédicateurs, pardon, illustres, qui ont dit prêcher la loi de Dieu à 90% et la grâce à 10%. Quand nous évangélisons, la personne doit être convaincue. Donc, je reviens à mon histoire de maladie. Et donc, cette personne de ma famille me dit, mais va dans tel laboratoire, fais les tests. Et je vais faire les tests, et effectivement, je suis atteint de cette maladie. Je peux vous dire que là, le médicament, je vais le prendre. Et le laboratoire ou la batterie d'analyse que le Seigneur nous propose, ce sont les 10 commandements. Et si nous passons au check-up des 10 commandements, là, je peux vous dire, mes amis, que... On va résister un petit peu, mais pas trop longtemps. Parce que on rencontre une personne et puis on lui dit ben, tu as un passé, enfin, un historique de ta famille chrétienne. Tu connais les 10 commandements? Il dit ouais. Et qu'est-ce que tu en penses? Par exemple, tu ne mentiras pas. Ben non, je ne mens pas, je ne suis pas un menteur. Qu'est-ce que tu me dis? Il ne t'est jamais arrivé de mentir? Ben si, une fois. Mais comme tout le monde est menteur. Mais pour toi, combien de fois il t'est arrivé de mentir? Ben plusieurs fois. Tu es donc un menteur. Tu as donc désobéi à un commandement de Dieu. Première chose. Deuxième chose, en parlant du vol, est-ce que tu as déjà volé quelque chose? Un crayon dans ton entreprise? Fais des photocopies? Vite fait? En cachette? Un produit à la caisse qui n'a pas été compté? T'as rien dit? Oui, ça m'est arrivé. Tu as donc pratiqué le vol? Tu es un voleur? Non, ça commence à se gâter. Et forcément, si c'est moi, si c'est n'importe lequel d'entre nous, Oula, où il veut en venir. Et peut-être tu as eu des paroles de haine, des pensées qui étaient vraiment mauvaises contre quelqu'un. Vous rappelez ce qui est dit ? Eh bien moi, je vous le déclare, verset 22, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui dit « espèce d'imbécile » mérite de passer devant la cour suprême. Et celui qui le traite d'insensé est bon pour l'enfer. Ça t'est arrivé ? Ben oui, ça m'est arrivé. Nous sommes au troisième, il y en a 10. 3 sur 3 déjà. Le quatrième, par exemple. Est-ce que tu as, pour un homme, regardé une femme et tu l'as convoitée ? Ouais, c'est arrivé. 4 sur 4. Tu veux qu'on continue ? Tous les 10 commandements. Les 10, nous avons désobéi à Dieu, nous avons sommes passés outre. Alors là, tu peux présenter la grâce de Dieu. C'est comme mon diagnostic. Je suis malade, je vais prendre le médicament et je ne vais pas le lâcher. Et bien sûr, pourquoi je vous amène ça ? C'est parce que notre connaissance de Dieu, notre séparation, elle n'a pas été radicale. On vous a, et moi-même, j'ai présenté quelquefois un évangile de confort pour pas trop déranger et choquer. Le problème, c'est que ça ne fait pas des convertis, ça fait des faux convertis. Et il est parlé dans ce texte, et j'en sais quelque chose, des gens qu'on prépare au baptême et qui, quelques mois après, ont déserté l'église. Alors on nous parle du suivi. Le problème, ce n'est pas le suivi. Le problème, c'est la conversion. C'est, vous vous rappelez, d'un effondrement dans nos vies. Genoux à terre. On a plaidé, il faut plaider coupable. J'ai un ami, pasteur, qui m'a dit, il m'a témoigné de sa vie. La personne qui l'a reçu lui a dit, plaide coupable. Et tout ce qu'il a fait, oui, il a plaidé coupable. Si tu n'as pas plaidé coupable, ça veut dire, tout le monde fait comme ça. Des petits péchés, mais Dieu est bon. Non, mais j'irai pas en enfer. C'est pas ce qui est mis dans la parole de Dieu. Et le problème, c'est que, n'ayant pas fait une véritable rencontre, une rencontre où il y a un effondrement dans nos vies, où il est dit, ce chemin-là, tu n'y passeras plus. Ou si tu veux y passer, il faudra vraiment que tu le veuilles. Mais le Seigneur, lui, a prévu autre chose. Ce n'est plus ce chemin-là que tu vas emprunter. Et quand nous connaissons ce Rédempteur, c'est-à-dire celui qui, d'une vie effondrée, relève, reconstruit, alors là, nous glorifions Dieu. Nous disons, Seigneur, tu as changé ma vie. J'étais mort, tu m'as relevé, tu m'as redonné la vie. J'étais aveugle, tu as ouvert mes yeux. Je ne savais pas ce que c'était l'amour, la compassion. Ça, c'est pour moi. Seigneur, tu as changé mon cœur. Et je sais que ce Dieu m'aime. Il a changé ma vie, mon regard sur moi-même. Je ne suis plus en train de m'apitoyer sur moi-même. Il y a eu des moments comme ça. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. On l'a chanté. Il est vivant. Il fait une œuvre dans ma vie. La morsure des serpents dont Robert a parlé tout à l'heure. Qui l'a guéri? Nous regardons à Jésus. Amen. Tous ceux qui regardaient à ce serpent élevé étaient guéris. Amen. Mais ils savaient pourquoi ils y allaient. Je vous le fais en live un peu, hein. C'est pas grave. On va y arriver. Déjà hier soir, j'ai enlevé pas mal de pages, mais c'était utile. Romains 6, 23, vous connaissez ce verset. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Et la grâce de Dieu, c'est qu'il ne nous laisse pas ignorants dans cet état. Il ne s'agit pas qu'il nous ait ouvert les yeux seulement, mais il est celui qui nous délivre. Il est l'antidote parfait au péché. Il réveille notre conscience. Il réveille notre conscience. Vous savez ce que c'est la conscience ? Ça veut dire avec connaissance. C'est-à-dire ce que tu ne connaissais pas, maintenant tu le connais. Dis pas que tu n'as rien vu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il éveille notre conscience. Il nous apporte la connaissance. Et donc, notre état de pécheur. Et nous, et là je parle à des chrétiens, nous avons besoin d'une conscience éveillée. Parce que ne me dites pas qu'il ne vous est pas arrivé depuis que vous êtes chrétien de regarder une femme. Mince. Alors, je ne vous dis pas que vous êtes malade à ce point, mais ça peut arriver. Le problème, c'est que le péché est à notre porte, sous toutes ses formes. Et que l'avertissement, il est pour des non-croyants et il est pour des croyants. Alors Paul disait à Timothée, 1 Timothée 1, 18, 19. Ah non, c'est pas ça. Oula. Donc il n'est pas inscrit, mais je vous le lis. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns, c'est à des chrétiens qu'il parle, hein, cette conscience, cette faculté d'entendre Dieu, cette conscience, quelques-uns l'ont abandonné et ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Ça arrive dès le premier siècle. Parce qu'il y a deux réactions possibles. Une réaction d'orgueil. Ben non, pas moi. Vous ne vous laissez pas toucher. Ou la réaction d'humilité. Et vous savez que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Et donc, Jacques 4, qui est indiqué là, parole vivante, infidèle que vous êtes. Jacques parlait aussi à des chrétiens. Ignorez-vous que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu. Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se constitue du même coup ennemi de Dieu. Ou bien prenez-vous des paroles en l'air, pour des paroles en l'air, pardon, des déclarations suivantes de l'Écriture. L'Esprit de Dieu fait habiter en nous, que Dieu fait habiter en nous, désire avec jalousie notre cœur tout entier. Oh, amen. Mais la grâce qu'il nous accorde aussi pour résister à ces tentations est d'autant plus grande si nous la recevons humblement. Suivant ce que dit l'Écriture, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il vous fuira. Tenez-vous tout près de Dieu, il se tiendra près de vous. Reconnaissez que vous êtes pécheurs, nettoyez vos mains, hommes indécis, purifiez vos cœurs. Amen. La parole de Dieu est une nourriture, est un instructeur, est un remède. Elle nous redresse, elle nous enseigne. Alléluia. Alors mes amis, quand on connaît ce livre, quand ce livre est vivant, quand nous savons qu'il nous a instruits dans la vérité, qu'il nous a amenés dans le salut, dans la connaissance de l'amour et la grâce du Seigneur Jésus, on en a faim. On en a faim. Et ça change notre cœur. Et là, ça guérit la tiédeur. Georges Müller, donc, qui a créé les orphelinats de Bristol, donc Robert vous a parlé assez souvent, cet homme disait qu'il avait appris qu'il ne devait pas arrêter de lire la parole jusqu'à ce qu'il se sente heureux en Dieu. Puis il se sentait apte à sortir pour sa journée de travail. Amen. Prenons des exemples qui tiennent la route, qui sont véritablement des serviteurs de Dieu qui ont œuvré, dont on connaît l'œuvre, et on sait que Dieu a travaillé, a fait quelque chose dans la vie de cet homme et de bien d'autres. Parce que le christianisme véritable, c'est une relation véritable avec notre Dieu, à travers sa parole, avec la puissance de son esprit, qui nous ouvre l'entendement. Amen. Et nous sommes devenus des êtres spirituels. Notre nourriture doit être une nourriture spirituelle. Si nous faisons un mauvais jeûne de nourriture spirituelle, c'est vrai que nous allons être très affaiblis. Parce que cette communion spirituelle, elle nous donne la nourriture qu'il nous faut. Et cette nourriture, elle est vraiment enthousiasmante. Amen. Et bien sûr, nous avons à protéger ces moments. Ce sont des rendez-vous quotidiens. On les appelle les cultes personnels, peu importe. Moi, je sais que j'ai rendez-vous avec mon Dieu tous les jours. En tout cas, je ne veux pas le louper. J'ai la chance maintenant de pouvoir démarrer mes journées un peu plus tard. Alors, je ne me prive pas. Et assez souvent, dites-moi si ce n'est pas vrai. Il y a le Seigneur qui frappe à votre porte. Il est là. Mon enfant, je veux passer la journée avec toi. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Et le jeune Samuel, qui ne savait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Après, il a dit, « Parle, ton serviteur écoute. » Amen. se séparer. Oui. Alors vous pouvez me dire, et je le sais, et nous pouvons dire au Seigneur, oui Seigneur, mais ton concurrent ce matin, il me fait une proposition, mais drôlement alléchante. Il y a du monde hein, sur la place. L'offre est importante. Mais lorsque nous sommes certains que c'est Dieu qui veut nous parler, le concurrent, il ne va pas avoir beaucoup d'écho. Pas beaucoup d'écho pour ses séductions. Nous avons besoin de connaître Dieu, de le connaître véritablement, de connaître et de reconnaître que nous avons tellement besoin de lui, que nos péchés nous accablent. Il nous accable. Et vous savez, deux exemples, David a dit, j'ai péché contre toi, Seigneur. Il n'a pas rendu des comptes aux hommes, c'est contre toi que j'ai péché, Seigneur. Et le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a dit ? Pareil. J'ai péché contre le ciel. Et donc, la séparation, elle est faite parce que nous reconnaissons que nous avons péché contre Dieu. Et nous reconnaissons que la seule issue, le seul remède, c'est le sang de Jésus-Christ. Alors, dans ces conditions, Luc 7, 47... On va le lire tout de suite. Simon, crois-moi, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour ça qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui pense avoir peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Ça peut être là notre situation. C'est que nous pensons avoir peu de choses à nous faire pardonner. Luc 7. Du verset 36 au verset 47, donc. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Ah. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce que l'est. » Ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Ça vous est arrivé, ça ? Jean-Luc, j'ai quelque chose à te dire. Simon, j'ai quelque chose à te dire. C'est, j'ai pas tout compris. « Maître parle, » répondit-il. Je crois que son cœur était bien disposé. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum à mes pieds, sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ce que je vous lisais, alors là c'était la version parole vivante, dans ces conditions, Simon, crois-moi, ses nombreux péchés lui sont pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Et ce passage est relaté également, je crois, dans Marc 14. Et là, c'est aux disciples que Jésus réexpose la situation, parce qu'ils sont vraiment mal à l'aise devant cette femme qui a fait une offrande incalculable, démesurée. Elle a dépassé les bornes. Elle a dépassé les bornes. Ça ne se fait pas, ce n'est pas dans la tradition. En plus, c'est une femme pécheresse, c'est-à-dire adultère. Cette femme, elle a tout donné. Ce vase, je ne sais pas quelle somme il valait. Mais ça veut dire vraiment se livrer. Et je crois qu'avant, cette femme, elle a livré son cœur au Seigneur. Elle est venue avec ses péchés. Et Jésus lui a fait grâce. Une offrande démesurée. Amen. Parce que son péché était révélé. Voilà, 1 Corinthiens 15. Et alors là, nous allons parler de l'apôtre Paul. Verset 9, car je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Écoutez bien, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Paul est un homme brisé. Il a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. L'effondrement. Sa vie au grand jour. Et il a reconnu que toute sa science, toute son intelligence l'avait conduit à combattre, à persécuter l'Église du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, je suis le moindre des apôtres. Mais il n'est pas resté dans cet état. Vous le savez. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Amen. Sa culpabilité a été dévoilée. Et la nôtre aussi. En tout cas, priez pour qu'elle soit dévoilée pendant qu'il est temps. Nous ne résisterons pas au check-up des 10 commandements. Impossible. Déjà devant un homme, nous allons fuir. Alors devant Dieu, devant qui tout genou fléchira. Tout genou. Galates 3:13. Alléluia. Mais à présent, le Christ nous a affranchis de l'esclavage du régime légal. Nous a affranchis de tout ce qui était dans la loi. Pas pour ne pas la respecter, mais parce que nous sommes coupables d'un bout à l'autre. Il a payé cher notre liberté, car il a pris sur lui la malédiction divine. En effet, n'est-il pas écrit « Maudit soit quiconque est pendu au gibet, à la croix. » Romains 5, 8. « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Amen. Et je ne vous ai pas dit tout cela pour vous décourager. Parce que le Seigneur est vivant Parce qu'il amène à la lumière. Toute chose qu'il amène à la lumière, c'est pour le guérir, c'est pour nous en délivrer. Et ça peut prendre le temps. J'ai pas vu tous mes péchés au premier jour. Et peut-être je ne les ai pas tous vus encore. Mais à chaque fois que le voile se lève, ah Seigneur, merci pour ta repentance, Seigneur. La repentance est un don de Dieu. Qu'il ouvre nos yeux, c'est un don qui vient de lui. Amen. Pour que nous soyons véritablement réconciliés avec lui. Pour que le chemin qui mène à lui, pour que notre cœur soit bouillant pour lui. Et non pas tantôt en haut, tantôt en bas. Amen, Seigneur. Philippiens 1:6, c'est pourquoi je suis persuadé qu'après avoir si bien travaillé en vous, Amen, le Seigneur achèvera son œuvre. Lui, il est fidèle jusqu'au bout. J'ai confiance en lui, il la développera, la complétera et la rendra parfaite pour le jour du retour de Jésus-Christ. Amen. C'est la traduction de parole vivante aussi. Et nous revenons à Romains 8. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, j'ai voulu vous mener dans cette réflexion, mes amis. Si vous vous voyez clocher du pied, rappelez-moi que j'ai prêché ça un jour. Rappelez-le-moi, s'il vous plaît. Faites ça pour moi. Je ne veux pas tiédir. Je ne veux pas refroidir. Nous sommes tous des rachetés de l'Éternel. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Vous ne savez pas tout ce que j'ai fait. Mais je sais qu'une chose, c'est que la grâce de Dieu, elle est pour chacun d'entre nous. Il n'y a personne d'exclu. Si nous ne nous en excluons pas nous-mêmes, parce que nous pouvons retrouver des raccourcis et faire le tour de l'effondrement. Une fois dans notre vie, l'effondrement s'est passé. Mais nous pouvons reconstruire des passerelles. Seigneur, garde-nous. Seigneur, retouche-nous par ta parole. Qu'il y ait un feu nouveau dans notre cœur. Seigneur, nous croyons que tu es la tête de cette église. Nous croyons que tu es le maître de cette église. Nous ne voulons pas clocher d'un pied puis de l'autre. Seigneur, nous voulons recevoir ta vérité. Nous avons prêché des choses, nous les avons entendues, qui étaient mauvaises. Ils nous ont conduits dans des sentiers qui étaient en horreur vis-à-vis de ce que tu voulais. Il y en a, mes amis. Il n'y a qu'une chose qui compte. Je n'ai pas ma parole, elle est là-bas. C'est la vérité qui est dans la parole de Dieu. Ce ne sont pas les influences de droite et de gauche. Les influences de droite et de gauche, ce sont les influences des hommes. Si je craignais les hommes, je ne pourrais pas vous parler comme ça. Il se peut que ce soit ma dernière prédication. On ne sait pas ce qui peut arriver. Alors vous comprenez que le Seigneur m'a ramené plusieurs fois cette semaine là où il voulait en venir. Amen. Alors nous allons prier. Les rachetés de l'Éternel.